Radio Kapi. Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. Remarquez-vous cette sonnette d'alarme de la société civile sur la situation sécuritaire, humanitaire et socio-économique pénible que traverse la province. Elle demande au gouvernement d'accélérer le processus de la réserve armée de la défense. Elle recommande également l'application des résolutions 2773 et 2808 des Nations Unies. Nous serons dans le Haut-Katanga avec ce triste constat. Le centre d'hébergement des enfants en rupture familiale de Lukuni est à l'abandon, alors que le nombre de ces enfants ne cesse d'augmenter dans les rues de Lubumbashi notamment. La ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants a visité ce centre vendredi dans la perspective de sa réhabilitation. Notre invité, le docteur Edouard Kaatoua, chirurgien cancérologue à l'hôpital général La Charité Maternelle de Goma. Il parle des risques sanitaires liés à l'inhalation des fumées issues de la combustion des plastiques. Bienvenue à cette édition du journal qui part du Nord Kivu. La coordination provinciale de la société civile tire la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire, humanitaire et socio-économique sur l'ensemble de la province. Dans une déclaration rendue publique vendredi à Moussinini dans les territoires de Lubero, cette structure citoyenne affirme que plusieurs entités de la province restent confrontées à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers dont les rebelles des ADF et de l'AFC 123. Pour elle, cette situation affecte les activités économiques, fragilise les circuits d'approvisionnement et accentue la vulnérabilité des milliers de ménages, notamment des personnes déplacées. Pépin Paluku Kavota, son coordonnateur.
Au regard des événements sur terrain caractérisés par l'activisme des terroristes ADF-MTN, l'agression du pays par l'armée rwandaise sous le label du M23 AFC, les déplacements des populations internes et sans assistance appropriée, l'installation des administrations parallèles, recrutement forcé de jeunes, le musellement, assassinats, meurtres, les menaces contre les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, les enlèvements, remplacement des autorités coutumières par les animateurs rebelles, multiplicité des taxes, occupation forcée de terres, maisons et arrestations arbitraires dans les zones occupées par les rebelles M23 AFC. Les incendies des villages, les massacres silencieux des populations civiles dans certaines entités par les ADF.
Face à ces situations difficiles et parmi les différentes recommandations, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement d'accélérer le processus de la réserve armée de la défense RAD. Elle recommande également l'application des résolutions 2773 et 2808 des Nations Unies. En Ituri, les FRDC ont récupéré jeudi vers Guina, dans le territoire de Djougou, un lot d'armes et de munitions attribuées au groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, CRP. Par ailleurs, un leader de cette milice, également autorité coutumière locale, a été arrêté à Mahagi-Port, dans le territoire voisin de Mahagi. Ces opérations ont été rendues possibles grâce à la collaboration de la population qui a dénoncé ces rebelles, une action saluée par les autorités militaires pour la consolidation de la paix dans cette province. Isaac Rimo nous en dit plus.
Selon l'armée, il s'agit de 10 armes de type AK-47 accompagnées de munitions de guerre et de 27 chargeurs. Le porte-parole de l'armée en Ituri précise que cette découverte est le résultat des opérations militaires en cours dans la région visant à traquer les miliciens. Il souligne également les rôles déterminants de la population de plus en plus lassée par la guerre. Par ailleurs, un leader de cette milice, ancien chef de groupement de Djaïba, a été arrêté en début de semaine à Mahagi-Port. Il est revenu de l'Ouganda lorsqu'il a été dénoncé par des habitants. L'armée encourage la population à continuer de soutenir ses efforts pour consolider la paix en Ituri. Elle appelle également les miliciens encore actifs impliqués dans des exactions contre les civils à déposer les armes et à rejoindre le processus de paix. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Les forces armées, encore une fois de plus, viennent de récupérer ces armes. C'est le fruit d'une parfaite collaboration et la prise de conscience de certains jeunes. C'est un message fort lancé à Thomas Lubanga et tous ses adeptes. Et nous les appelons à déposer les armes et à se rendre aux forces armées.
Signalons que ce n'est pas pour la première fois que l'armée découvre des caches d'armes appartenant à la milice CRP. Certains de ces combattants ont déjà intégré les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, les PDDRCS. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, des arrestations des jeunes par la police au quartier Mombélé dans la commune de Limété suscitent l'indignation. Accusés de vagabondage nocturne, ces jeunes affirment que leur libération est conditionnée au paiement de fortes amendes, une situation dénoncée par les victimes et leurs proches. Contactée, la hiérarchie policière dit ne pas être informée. Elle promet d'ouvrir des enquêtes. C'est un reportage signé Magloire Lando.
À Mombélé, dès la tombée de la nuit, la peur gagne plusieurs habitants. Les rues sont vides et tout le monde se sauve. La raison est bien simple, les jeunes ne veulent pas tomber dans les filets de la police qui, d'après eux, les arrêtent sans raison valable. Quelques-unes des victimes s'expriment.
Je rentrais chez moi et arrivais au coin de notre avenue vers 19h, j'ai rencontré deux hommes en civil. Ils m'ont immédiatement arrêté. Lorsque j'ai essayé de me libérer de leur emprise, ils ont commencé à me frapper. D'autres policiers sont arrivés. Ils m'ont ensuite amené au sous-commissariat. Ils m'ont exigé de payer 80 000 francs congolais, sinon ils allaient me transférer à l'échangeur.
Nous ne comprenons pas le comportement de nos policiers. Quand ils procèdent à ces arrestations, les gens s'énervent et on voit souvent de tirs. C'est ainsi qu'une de mes amies est morte à cause d'une balle perdue. Nous parlons, mais nous ne voyons aucune réaction. D'après le jeune du quartier, le policier mis en cause travaille avec deux personnes en tenue civile qui sont envoyées en éclaireur auprès de jeunes passants avant qu'eux ne surgissent pour mettre la main sur eux et les amener au poste de police où ils sont obligés de payer avant leur libération. Contacté, un des responsables de la police dit ne pas être informé de la situation et demande aux victimes de dénoncer tous ces cas afin de lui permettre de se documenter et d'en faire un suivi pour les décourager.
Dans la province du Haut-Katanga, le centre d'hébergement des enfants en rupture familiale de Lukuni, à 25 km de Lubumbashi, se trouve dans l'abandon. La ministre provinciale du genre, famille et enfants l'a visité vendredi pour faire un état de lieu dans la perspective de sa réhabilitation par le gouvernement provincial. Le centre de Lukuni hébergeait jadis une grande partie des jeunes désœuvrés de la ville de Lubumbashi. Le point avec Paula Munanga.
Premier constat, l'intendance où sont gardés les vivres du centre de Lukuni, les salles de cours, la salle de cinéma, les dortoirs, les bureaux du superviseur et les secrétariats sont délabrés. Ces infrastructures ont été pillées par les anciens pensionnaires qui réclamaient leur insertion dans la société. La borne fontaine ne fournit plus de l'eau. Elle est à l'arrêt à la suite d'une panne technique. Un enfant vivant dans ce centre expose les difficultés. Avec un seul habit, il peut pleuvoir et vous dormez avec ces mêmes habits mouillés. Les poux peuvent vous envahir. Si on peut nous assister avec les habits et les babouches. En outre, nous manquons de l'eau potable. Et puis nous nous ennuyons. Si on installait les courants au centre pour nous permettre de nous distraire. Pour rappel, il y a quelques années, Lukuni présentait une image d'un centre d'hébergement digne pour des enfants en difficulté. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga qui gère ce centre avait lancé à l'époque l'opération Zéro Enfants Sans Abri, une initiative qui avait permis de récupérer des centaines d'enfants en rupture familiale issus des rues de Lubumbashi et qui vivaient dans la précarité. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans la Tchopo, ce SOS en faveur des déplacés, plus de 7500 personnes fuyant des atrocités de rebelles des ADF dans les territoires de Mambasa, Badengaido, Onyanya sont arrivées depuis environ une semaine à Bafassindé. Dépourvus de tout, ces déplacés vivent dans des conditions précaires au sein des familles d'accueil. Promiscuité, manque de nourriture et risque de maladies font partie de leur quotidien. Explication, Jacques Moukonkole.
Les derniers déplacés ont fait leur entrée dans le territoire vendredi dernier. Sur place, la solidarité de la population locale est mise à rude épreuve. Contrairement à d'autres zones, les déplacés ne sont pas regroupés dans des camps, mais partagent le quotidien des habitants. Dans certaines parcelles, on compte plus de 60 personnes, indique Willy Simbié, administrateur du territoire de Bafouassende.
En tout cas, l'assistance, c'est ce qui est vraiment prioritaire. Hein? L'assistance alimentaire, les ustensiles de ménage. Ce que je redoute, l'ennemi profite. Parfois, à de telles occasions, il peut y avoir infiltration.
Outre la faim, la peur d'une infiltration rebelle hante les esprits. Face à cette menace, l'autorité territoriale appelle à un renforcement immédiat du dispositif sécuritaire. Pour Willy Simbié, les effectifs actuels sont largement insuffisants pour couvrir l'ensemble du territoire.
à mon staff de sécurité de multiplier la vigilance et aux autorités de renforcer l'armée chez moi pour que, en cas de problème, tout soit réglé dans un laps de temps. Pour les militaires, c'est quand même bien parce que j'ai tout un bataillon. Ce que je vais demander, c'est de les équiper.
Un appel à l'aide humanitaire et sécuritaire est ainsi lancé pour éviter que le territoire de Bafoua-Sendé ne sombre à son tour dans le chaos. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kassai-Oriental, la campagne de collecte de fonds destinée à soutenir des femmes vendeuses opérant sur les campus de l'université officielle de Mbujimayi UOM s'est clôturée hier samedi. Cette activité inscrite dans le cadre du mois dédié aux droits de la femme 2026 a permis à l'UOM de collecter déjà plus de $3,000 américains sur les 5,000 attendus. La cérémonie de clôture de cette campagne a été présidée par le gouverneur de province dans l'amphithéâtre de l'UOM en présence des bénéficiaires et des autorités académiques. Explication Estan Dalafina.
Selon le recteur de l'UOM, le professeur Abbé Apollinaire Tshibakati-Kongo, près de $5,000 seront distribués dans les prochains jours à une cinquantaine de femmes vendeuses de produits vivriers essentiels, notamment les bananes beignets, arachides, eau et boissons sucrées, qui assurent quotidiennement les services aux étudiants et au personnel académique.
L'idée pour nous, c'est dire d'abord merci aux mamans, qu'on les veuille ou pas, ils font partie de cette université. On voudrait aussi les aider dans la formation à la gestion, à l'hygiène, parce qu'elles nous donnent des choses que nous mangeons, mais surtout appuyer aussi leur petit capital.
Parmi les femmes concernées, Thérèse Nsalanga a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance pour cette initiative qui, selon elle, vient renforcer la capacité économique et sécuriser ses activités sur le campus.
Je remercie M. Tshibaka pour son bon cœur, pour avoir pensé à soutenir toutes les femmes qui vendent des petites choses sur le campus. J'ai une immense joie pour cette initiative.
En 2024, l'université avait organisé une collecte en faveur des femmes de l'Est du pays. En 2025, l'effort avait été orienté vers les femmes de Katanda. Cette année, l'attention est portée sur celles qui, chaque jour, offrent des services essentiels à la vie du campus. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Parlons de cette réalité à présent. Si les nouvelles technologies évoluent rapidement, tout le monde n'en bénéficie pas de la même manière. C'est le cas des personnes malentendantes, communément appelées sourds-muets. Comment communiquent-elles à l'aide du téléphone, devenu aujourd'hui un véritable outil pédagogique? Leur utilisation est souvent limitée aux messages écrits et aux images, faute de pouvoir passer des appels vocaux ou envoyer des messages audio. Christelle Aichi a visité une école spécialisée. Elle nous propose ce reportage.
Dans cette école dédiée à l'éducation des personnes malentendantes, la technologie s'impose progressivement dans les quotidiens des apprenants. Smartphones, tablettes et applications spécialisées sont désormais utilisées comme outils complémentaires à l'enseignement. Selon Tomo Kabagambe Bamugara, directeur de l'école des malentendants à Bunia, nos élèves dépendaient presque entièrement de la langue des signes en présentiel. Aujourd'hui, grâce au téléphone, ils peuvent communiquer à distance, apprendre à même se former de manière autonome, déclare-t-il.
Si un enfant sur un téléphone, ils peuvent entrer là où il y a beaucoup d'applications, comme tout le monde. Ils peuvent manier le téléphone, ils peuvent entrer dans des applications. Mais pour la communication comme telle, ils peuvent utiliser surtout les textos.
De son côté, Bugasa Kikwami, enseignant spécialisé, souligne l'impact positif de la technologie sur l'apprentissage. Les téléphones servent désormais des supports pédagogiques au quotidien.
Nous avons des méthodes avec lesquelles nous sommes en train de les apprendre d'utiliser ça. Ils sont capables de faire tout.
Cependant, ces outils restent coûteux et la plupart des personnes malentendantes ont du mal à s'en procurer. Bounia, Christelle Aichi, Radio Okapi.
Santé, au moins 23 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans sont attendus à la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Elle est prévue la semaine prochaine du 22 au 26 avril dans les 515 zones de santé de la République démocratique du Congo. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 16e édition de la semaine africaine de la vaccination. Lors d'un briefing de presse vendredi à Kinshasa, le directeur adjoint du programme élargi des vaccinations paix va appeler à l'implication de toute la communauté, notamment des journalistes et des leaders d'opinion pour assurer la réussite de cette campagne vaccinale. Il explique aussi en détail comment cela va se dérouler. Les propos du docteur Augustin Milabio sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
La rubéole, la rougeole avec la poliomyélite va se dérouler dans 11 provinces. Les 11 provinces qui sont concernées par la rubéole, la rougeole et la poliomyélite sont Congo central, la ville province de Kinshasa, les Kwango, Kwilu, Maindombe, l'Équateur, la Mongala, le Nord et les Sud-Ubangi. Ainsi que la Tchoko. La campagne polio, c'est jusqu'à 5 ans. Et pour la campagne rougeole et rubéole, c'est jusqu'à 14. En dehors de ces 11 provinces, les autres provinces vont vacciner pendant la campagne de masse seulement avec la polio. 23 millions d'enfants, nombre d'enfants que nous voulons. Et ces enfants sont âgés de 6 mois à 14 ans. Pour qu'un enfant puisse grandir, l'épargner de tout ce qui est maladie, on a mis en place dans les systèmes de santé la prévention. Et la prévention pour les enfants tourne autour d'abord de la vaccination. Il y a plusieurs stratégies. Les plaidoyers auprès des autorités politico-administratives ou les leaders religieux. Communication interpersonnelle. Mobilisation sociale. Nous voulons vraiment que vous puissiez nous accompagner dans les processus pour atteindre une grande proportion de nos parents, les gardiens d'enfants.
Et à Kinshasa, l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre le marché de Selembao et l'université pédagogique nationale Angalema est dégradée. Des initiatives privées pour rendre praticable cet axe routier ont démontré leurs limites. Ces situations perturbent l'approvisionnement de Kinshasa en vivre depuis le Congo central et le déplacement des étudiants vers l'université. Mais il n'y a pas que cela, elle complique aussi le transfert des détenus entre la prison centrale de Makala et l'hôpital sanatorium. Elle impacte également négativement le quotidien de ceux qui habitent dans les environs. Des détails dans ce reportage signé Ila Chimbalo.
Sur l'avenue de la Libération, les signes de dégradation sont visibles. De l'avenue Mpanzu, près de la station Selembao au rond-point de l'Université Pédagogique Nationale, en passant par Manifeste 24, Libulu Kitokimosi ou encore l'arrêt camping, la chaussée est endommagée, nid de poules, boue et eau stagnante rendent la circulation difficile, voire impossible surtout après la pluie. La plupart des conducteurs à l'approche de ce tronçon ont les cuirs serrés car il n'est pas aisé d'y rouler. Les chauffeurs ralentissent la vitesse pour ne pas endommager leur véhicule. L'un d'eux exprime son désarroi.
Il n'y a même plus moyen pour le véhicule de pouvoir utiliser cette date. Si vous avez un véhicule de type bar, carrément impossible de pouvoir passer ici.
Cette situation n'est pas sans conséquence pour les usagers. Aux aires de pointe, le véhicule qui transporte les marchandises et autres taxis et taxibus s'engouffre dans les embouteillages. Le vendeur du marché de Selembao, qui sont souvent approvisionnés par ses camions en provenance du Congo central, se plaignent souvent du retard avec lequel les marchandises leur sont fournies.
Nous chauffons vraiment, c'est une roue qui nous aide dans beaucoup de choses. Donc on a des véhicules qui proviennent souvent de Bas-Congo.
Face à cette situation devenue intenable, les usagers espèrent désormais une intervention urgente des autorités avant que cet axe vital ne soit totalement impraticable.
Actualité internationale.
Le Togo souhaite servir de passerelle entre le Sahel et la communauté internationale. Dans le cadre de cette ambition, le pays a élaboré une nouvelle stratégie présentée hier samedi à Lomé par le ministère des Affaires étrangères pour la période de 2026 à 2028. Pour les autorités, cette nouvelle feuille de route remplace celle adoptée en 2021 qui a guidé l'engagement togolais au Sahel au cours des 4 dernières années. Le Togo est prêt à mettre son expertise en matière de médiation et son ancrage régional au service de la stabilité en jouant le rôle des passerelle entre le Sahel et la communauté internationale au sens large, a déclaré Robert Dussin, ministre togolais des Affaires étrangères.
L'invité.
Il s'agit du docteur Edouard Kaatoir, chirurgien cancérologue à l'hôpital général La Charité maternelle de Goma. Il parle des risques sanitaires liés à l'inhalation des fumées issues de la combustion du plastique, une pratique encore répandue dans certains ménages et dans certaines activités artisanales. C'est à la suite de l'appel de l'ONG appuyé aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement durable, ICED, qui invite la population à abandonner cette pratique. Quelles sont les précautions à prendre? Quelle conduite adopter pour protéger sa santé et son environnement? Le docteur Edouard Kaatoir répond dans cet entretien conduit par Bernard Denyangui.
Docteur Edouard Kaatoir, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Alors, docteur, il y a une organisation locale basée à Goma qui a fait un constat selon lequel il y a non seulement certains ménages, mais aussi certaines industries locales qui utilisent les bouteilles en plastique pour faire soit la cuisson, ou comme une combustible pour peut-être même cuire les pains. Est-ce que une telle pratique peut entraîner des conséquences sur le plan de la santé?
En tant que cancérologue, j'aimerais bien sûr lancer une sonnette d'alarme par rapport à la fumée issue de la combustion des plastiques. La fumée de plastique a été incriminée comme cancérogène, donc une fumée qui peut induire le développement de certains cancers lorsqu'on l'a inhalée. Ce n'est pas à dire qu'on l'a inhalée aujourd'hui et qu'on va développer demain un cancer. Le développement du cancer est un processus multi-étapes qui prend du temps. Vous pouvez être soumis à cette fumée pendant un certain nombre d'années et plus tard développer un cancer. Et les cancers induit par inhalation de fumée de plastique ou bien ceux qui travaillent dans les industries pétrolières, ils sont exposés à certains cancers. On peut citer les cancers bronchopulmonaires. Il y a aussi les leucémies qui sont les cancers du sang. Il y a aussi les cancers de la vessie. Il a été incriminé autour de 30% des leucémies sont dues à cette inhalation de fumée de plastique. Même si la population ignore les risques, bien sûr, mais nous sommes là pour informer, pour sensibiliser, parce que le cancer est un fléau et que lorsque le cancer a été initié, il se développe et prend une progression. Et le soigner le cancer, ce n'est pas chose aisée.
À part le cancer, cela peut entraîner le développement d'autres maladies.
Exactement. Lorsqu'on inhale la fumée, lorsqu'il y a aussi un autre cofacteur qu'on parle de tabagisme qui peut être actif ou passif, le tabac aussi vient fragiliser. On peut citer d'autres maladies comme les bronchopneumopathies et autres maladies qui peuvent être aussi liées à l'inhalation de cette fumée issue de la combustion de plastique. Et par ailleurs, lorsqu'on travaille dans des industries pétrolières, là, ce sont ce type de maladies qu'on parle de maladies professionnelles, donc une maladie liée à la profession que tu exerces. Ceux qui exercent dans des boulangeries, lorsqu'ils sont soumis à cette fumée-là, dans ce cadre-là, lorsqu'ils devront développer une maladie liée à l'inhalation de cette fumée-là, on va classer cette maladie en maladie professionnelle.
Est-ce que dans cette fumée, il y a certains agents particuliers qui peuvent être à la base de telles maladies?
Oui, il y a des agents particuliers. Lorsque le plastique se décompose sur base de la chaleur, lorsqu'on brûle le plastique, il y a des composés toxiques qui se dégagent. Notamment, on peut citer les dioxines, les hydrocarbures de furane, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et même du benzène. Bien sûr que l'organisme peut évacuer ces toxiques, mais lorsque l'organisme est fatigué à évacuer ces toxiques, c'est à ce moment-là qu'il s'accumule dans l'organisme et induit transformation de la cellule normale en une cellule cancéreuse. C'est un processus multi-étapes.
Pour terminer, docteur, quel est le message ou le conseil que vous pouvez donner à la population? Parce que bon, parfois aussi, il y a les gens qui recourent à de telles pratiques à défaut d'avoir les moyens, peut-être pour se procurer le nécessaire, peut-être pour se procurer le bois de chauffe.
Le mieux serait d'éviter ce genre de pratiques. À défaut du mieux, on devait se protéger. On peut porter un masque, mais à moindre mesure, il y a un peu de toxines qui passent à travers les masques, mais le mieux serait d'éviter. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir parce qu'on ne s'expose pas non seulement seul, et on expose aussi son entourage. Donc c'est là, c'est une mauvaise pratique, mais à défaut du mieux, protégeons-nous.
Docteur Edouard Katoa, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Docteur Edouard Katoa, chirurgien cancérologue à l'hôpital général La Charité Maternelle de Goma, interrogé ici par Bernard Denyangui. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jean Gandou, mis en onde par André Emongo avec Babel Pongoma-Simango à la présentation. Merci de nous avoir consacré votre temps et votre attention. Passez un bon après-midi.